Je rappelle autre chose qui touche plus notre travail. Il m'est arrivé de citer très très rapidement un auteur qui s'appelle André Audricourt. H-A-U-D-R-I-C-O-U-R-T. Peut-être vous vous rappelez à quel propos c'était. C'était au propos, d'après le propos suivant, où on se demandait comme ça, bien, il y a beaucoup de formes sous lesquelles l'homme peut être pensé. Et la forme homme n'est qu'une de ces formes parmi d'autres. Et on avait vu comment chez Foucault, par exemple, Foucault proposait une définition de l'âge classique, où l'homme était pensé sous la forme Dieu et pas du tout sous la forme homme. Et puis une autre période où l'homme était pensé sous une forme spécifique homme. Et puis on pouvait très bien concevoir une formation de l'avenir où l'homme serait encore pensé sous d'autres formes. Et là-dessus on avait fait très vite allusion à des formations historiques plus vastes que la période à laquelle Foucault se tenait, à savoir du XVIIe au XXe siècle, européen. Et j'ai toujours signalé que Foucault, avec beaucoup de prudence, ne s'était jamais estimé compétent pour pouvoir parler des civilisations dites orientales, ou même d'un passé très lointain. Et j'avais juste dit comme ça, mais ce serait intéressant, en effet, de poursuivre l'entreprise au niveau des formations orientales, au niveau de formations anciennes, par exemple féodalité, ou bien les Romains, les Grecs. On est en train de pressentir que pour les Grecs, Foucault l'a fait lui-même à la fin. Et j'avais cité Audricourt parce que c'est un penseur extrêmement riche, relativement peu connu, c'est bien sa faute. Et je disais, quant aux formations orientales, peut-être est-ce qu'il nous aiderait beaucoup à... Et c'était à ce propos que j'avais fait une rapide allusion. Là-dessus, certains d'entre vous me demandent de préciser un peu sur cet auteur. Or, Audricourt n'est pas un philosophe de formation, et même pas un ethnologue, même pas un linguiste, quoiqu'il soit qu'il se soit occupé énormément d'ethnologie et de linguistique. C'est un agronome. C'est un ingénieur agronome. Comment on peut dire que l'agronomie aura donné à la pensée moderne deux auteurs essentiels, à savoir Audricourt et Rompuy. Il y a beaucoup de disciplines qui ne peuvent pas se vanter d'un tel apport. Et Audricourt, s'il est peu connu des non-spécialistes, c'est parce qu'il n'a jamais voulu faire de livres, ou ça ne l'intéresse pas beaucoup faire des livres. Et l'essentiel de son œuvre, c'est dans des articles dispersés qui ont une quinzaine de pages. Ça n'empêche pas qu'il a marqué tout le monde. Il a marqué tout le monde. Toute l'ethnologie française, et je ne dis pas d'Éric d'Audricourt, toute l'ethno-linguistique, ne dépend pas d'Audricourt, mais il a été un des premiers. Alors je signale pour ceux que cet auteur intéresserait, qui voudrait se débrouiller là-dedans, que la revue La Pensée a fait un numéro spécial sur lui. C'est le numéro 171 de la revue La Pensée, octobre 1973. Un livre fondamental, un des rares livres, est écrit en collaboration avec Louis Hédin. Audricourt et Hédin, H-E-D-I-N, 1943, Hommes et plantes cultivées, chez Gallimard. Et enfin, si j'essaie de donner dans le numéro de la pensée, vous trouverez une bibliographie d'ailleurs restreinte, une bibliographie partielle d'Audricourt. Mais un des articles les plus beaux, les plus frappants, c'est 15 pages, à la fois très rigoureuses, tout à fait délirantes, très curieuses, très bizarre article d'une quinzaine de pages, vous le trouverez dans la revue L'Homme, 1962. Et intéresse précisément le problème que je soulevais en passant. L'article s'intitule « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui ». C'est un beau titre, ça. Il va expliquer que les philosophies de la transcendance sont inséparables du mouton. Bonne idée. Alors comme ça, il le dit en toutes lettres, dit comme ça, ça ne fait pas sérieux. Si vous lisez l'article, vous verrez que c'est extraordinairement sérieux. En revanche, que les philosophies de l'immanence, d'après lesquelles il caractérise l'Orient, sont liées à la culture du riz, et non pas à l'élevage du mouton. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En quoi ça peut nous intéresser? Ça pourrait nous répondre, ça pourrait nous aider à répondre à la question. Eh bien, par exemple, dans certaines civilisations orientales, notamment l'Océanie et la Chine, sous quelle forme l'homme est-il pensé? Car tout le thème d'Audricourt, je grossis énormément, c'est ceci, c'est que l'Occident s'est essentiellement constitué sur un certain mode qui est la bergerie. La bergerie méditerranéenne. Tandis que toute une partie de l'Orient, notamment l'Océanie et aussi la Chine, s'est constituée sur un tout autre mode qui est le jardin. Le jardin oriental, par différence, vous voyez en quoi il est agronome, le jardin oriental par opposition à la bergerie méditerranéenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement, c'est pas, il ne veut pas dire évidemment que simplement, bien que ça comprenne ça, mais il ne veut pas dire éleveur, agriculteur. Je veux dire autre chose parce que c'est même au niveau des agricultures que l'on trouvera la même différence, selon lui. Il dit, prenez le geste auguste du semeur, ou bien le récolteur. Ça, c'est occidental. C'est ce qu'il appellera un traitement direct et massal. Le geste auguste du semeur. Ça, c'est signé l'Occident, hein, le geste auguste du semeur. Et puis, le récolteur, en Occident, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend une touffe et il fauche la touffe. Tout ça, c'est un traitement massal. En Orient, oui, massal, au sens de masse, traitement de masse. En Orient, c'est très différent, parce qu'il prend les exemples de l'igname, du riz, et cette fois-ci, c'est un traitement individuel qui repose, il va jusqu'à dire, c'est finalement un traitement de clone, ce qu'on appelle en agronomie des clones, c'est des lignées presque pures. Et Ça se pique. Entre piquer dans la terre et le geste du semeur, il y a une différence de style, il y a une différence de technique qui engage le corps lui-même, l'esprit lui-même. Bon. Et le récolteur oriental, hein, il défait la terre autour de... Alors c'est intéressant aussi bien au niveau de, comment dire, de la production que de la récolte. Il y a une différence radicale au niveau des deux agricultures. Il y a aussi une différence radicale au niveau de l'élevage. Pourquoi? C'est parce que, vu le traitement, vu l'agriculture spéciale en Orient, vu cette différence entre l'agriculture d'Occident et celle d'Orient, il se trouve que l'Occident a eu un avantage technologique très considérable, c'est-à-dire il a assez vite su résoudre son problème de la cohabitation de l'élevage et de l'agriculture. Tandis que, en Orient, le problème d'une cohabitation de l'élevage et de l'agriculture et la rivalité de l'élevage et de l'agriculture ont posé des problèmes considérables. On le voit bien au niveau d'un des animaux les plus importants en Océanie et en Chine aussi, le cochon, non plus le mouton, où il faut parquer le cochon pour qu'il ne rivalise pas, c'est-à-dire qu'il ne s'empare pas de la nourriture des hommes. Ou bien l'élevage se trouvera dans d'autres régions, renvoyé aux nomades, dans un autre espace. Ça expliquera beaucoup de choses, par exemple, sur deux traits, l'alimentation non carnée en Orient et le rôle du riz. Tout ce que j'ai est très très rapide, hein, c'est pour vous donner l'envie de lire Audrey Court. L'alimentation non carnée et l'absence de et l'absence d'utilisation de la traction animale. Et ça fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles l'Occident l'emporte sur l'Orient dans le mouvement de l'histoire pendant une période X.